Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
Bah écoute, merci déjà de m'avoir permis de participer et de m'avoir invité à ce live. Donc, je suis Anne Demangea et je suis coach de la relation et psychopraticienne. Voilà, donc mon terrain d'action à moi, c'est la relation. Donc, relation aux autres, bien évidemment, et relation à soi aussi, parce que tout commence et tout finit par la relation à soi au bout du compte.
C'est vrai. Tu fais du en ligne, du présentiel ?
Alors, je fais exactement du moitié-moitié. J'ai 50% de mon activité en présentiel et 50% en visio.
D'accord, super. Ben, merci Anne pour cette présentation. On va aller directement dans le vif du sujet. Je rappelle, le sujet du jour, c'est les enjeux de la sécurité affective. Alors justement Anne, qu'est-ce que la sécurité affective ?
Alors c'est compliqué à définir et en même temps c'est indispensable. Donc, la sécurité affective, il n'y a pas vraiment de réelle définition. Je suis même allée chercher sur le Larousse pour voir s'il y avait une vraie définition. En fait, c'est un domaine très large, la sécurité affective, parce que ça va rejoindre nos besoins vitaux. Hein. C'est Maslow avec sa pyramide, je ne sais pas si vous en souvenez, mais la fameuse pyramide de Maslow. Tout en bas, il y a les besoins physiologiques. Donc, les besoins vitaux, se nourrir, dormir, respirer, tout ça. Et puis, il y a juste au-dessus les besoins de sécurité. Donc, on pense à la sécurité physique, bien sûr, avoir un toit sur sa tête. Nous, on a la chance d'être dans un pays où on n'est pas en guerre, où notre sécurité physique n'est pas impactée. Mais il s'agit là de notre sécurité affective et ça fait partie du besoin de sécurité. Donc, c'est un besoin vital. Et qu'est-ce que ça comprend ? Eh bien, ça va comprendre tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est estime de soi, tout ce qui est amour de soi. Et c'est ce qui va permettre à chacun de se développer, à chaque enfant de grandir sereinement, de rentrer dans ses apprentissages, et aux adultes d'être dans leur liberté d'être au quotidien, tout simplement.
D'accord. Merci Anne. Alors, une bonne sécurité affective, est-ce qu'elle a des conséquences sur notre futur et à l'inverse ?
Ah ben oui, elle a un sacré impact, c'est-à-dire que notre sécurité affective, c'est elle qui va déterminer la façon dont nous allons rentrer en lien d'abord avec nous-mêmes, donc d'où confiance en soi, estime de soi et amour de soi. Ça va aussi impacter donc notre façon d'apprendre, notre façon de vivre la vie au quotidien. Mais ça va aussi impacter notre façon d'entrer en relation avec les autres. Ça va impacter tout ce qui est connexion aux autres et toutes nos relations. Donc, toutes les relations futures de l'enfant, c'est-à-dire aussi bien la relation avec ses pairs, P-A-I-R-S, et la relation avec ses futurs maîtres et maîtresses d'école, professeurs, puis ses futurs collègues, ses amis et ses futurs amoureux. Donc, ça conditionne tout, la sécurité affective.
D'accord. Et à l'inverse, donc, si on a une mauvaise sécurité affective, finalement, bah, ça impacte, mais en négatif, j'imagine.
Eh bien, ça impacte en négatif parce que quand on ne nous sommes pas en sécurité, en fait, notre système nerveux va détecter comme si c'était du danger, en fait. Mmh. Et là, je fais appel à tout ce qui est, en ce moment, on entend de plus en plus parler de la théorie polyvagale. Et donc, moi, je travaille entre autres avec les outils de la théorie polyvagale qui me semblent maintenant tellement justes qu'on ne peut pas les mettre de côté. Donc, la théorie polyvagale, très brièvement, c'est vagal, c'est le nerf vague, et ça fait partie de notre système nerveux autonome. Donc, le système nerveux autonome, c'est celui qui nous permet d'être en vie sans avoir à réfléchir. C'est-à-dire que si je décide de lever le bras, là, c'est mon conscient qui dit « lève le bras », Par contre, si mon cerveau n'envoie aucun message à mon système nerveux pour que je respire, pour que je digère, pour que mon cœur batte. Et ça, c'est le système nerveux autonome qui s'en occupe. Donc, ce fameux nerf vague est un des principaux. Donc, si je ne suis pas en sécurité, mon système nerveux va détecter du danger. Et si je suis en danger permanent, si je ne suis pas donc en sécurité de façon permanente, eh bien, mon système nerveux, il est comme s'il était sous alerte constante. Et donc, plutôt que d'être zen quand je vais rentrer en relation avec quelqu'un d'autre, bah, je vais percevoir du danger tout le temps. Donc, ça va altérer mes relations aux autres, mais ça va altérer aussi ma propre relation à moi. C'est-à-dire que quand mon énergie, elle est focussée vers le danger, elle ne va pas pouvoir se mettre vers ma propre santé et la santé physique. C'est-à-dire que comme le nerf vague régit la respiration, régit les rythmes du cœur et régit la digestion, eh ben, si mon énergie vitale elle est focussée vers le danger ailleurs, eh bien, je ne vais pas pouvoir digérer sereinement et respirer sereinement. Et donc voilà, je suis sous alerte constante.
Maintenant, Anne, qu'on a vu que la sécurité affective, finalement, était très importante et qu'elle avait un impact dans notre relation à soi et dans notre relation aux autres, comment on peut donner confiance à son enfant et l'aider à bien grandir? Ça, c'est une question qui est revenue très, très, très souvent.
Alors ça, c'est vraiment mon cheval de bataille, parce qu'avant d'être thérapeute, j'étais professeure des écoles. Donc, j'ai une longue carrière dans l'enseignement. Et c'est d'ailleurs pour cela que je suis arrivée à la thérapie ensuite. Parce que voir les enfants au quotidien, ça a été très important pour moi de me dire comment je vais pouvoir agir sur les enfants et donc en passant par les parents. Parce qu'au final, si les parents vont bien, les enfants vont bien. Si les parents sont en sécurité affective, les enfants vont être en sécurité affective. Donc déjà, tu peux voir le lien entre les deux. Ouais. Donc, comment agir sur la sécurité affective de mon enfant et lui donner tout ce qu'il faut pour être en pleine sécurité, pour grandir convenablement? Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que ça affecte aussi le cortex, donc la façon dont on va rentrer dans l'apprentissage aussi. Donc D'accord. ça a un impact vraiment très très fort. Donc en tant que parent, je suis une maman, comment faire pour que mon enfant soit en sécurité affective le plus possible? Eh bien, ça va être que moi, déjà, je rentre dans ma relation avec lui-même en pleine sécurité affective. Donc, parce que là, inévitablement, quand on parle de sécurité affective, forcément, c'est inévitablement rattaché au trouble de l'attachement, inévitablement. Et donc, la façon dont mon enfant va s'attacher à moi-même va passer par mon état intérieur. Donc, comment je vais rentrer en relation avec lui va déterminer sa propre sécurité. Ça veut dire concrètement que si je rentre du travail et que je suis complètement stressée par la réunion qui s'est très mal passée à mon travail, par un clash qui s'est passé à mon bureau, eh bien de me donner un temps de sas de décompression, voilà, j'étais en train de chercher un
mot. Pour redescendre un peu, quoi.
Voilà, pour redescendre un peu justement en pression et pouvoir donner à mon enfant toute une relation de qualité. Parce que qu'est-ce que c'est au final une relation de qualité? Eh bien, c'est une relation où il y a les 7 besoins relationnels nourris, c'est-à-dire le besoin de se dire, le besoin d'être entendu, le besoin d'être reconnu, le besoin d'être valorisé, le besoin de rêver et le besoin d'intimité. Je ne sais pas si je les ai tous dit, je n'ai pas compté sur mes doigts.
Il y en avait combien, 7?
Et d'influencer, voilà, le besoin d'influencer. Donc, il y en avait 7. Et donc, si en tant que maman, je ne suis pas en capacité de décoder si mon enfant a vraiment là un besoin de se dire et surtout d'être entendu, eh bien, ça va être compliqué pour moi de l'entendre, de le valoriser, de le reconnaître pour ce qu'il est. Et donc, ça va passer par moi, par vraiment un ajustement de mes propres besoins avant tout, pour lui proposer une vraie écoute.
D'accord.
Et donc ça, c'est de plus en plus compliqué pour les jeunes parents, parce que les jeunes parents sont de plus en plus sollicités. Leur travail ne s'arrête pas à 5 heures. souvent, ils sont submergés de mails à la maison et ils continuent en fait leur journée à la maison ou ils sont sur les réseaux sociaux ou alors ils sont obnubilés par un autre enfant en bas âge qui est à côté. Et donc, est-ce que je donne du temps de qualité à mon enfant? Est-ce que je suis en capacité de l'écouter vraiment au moment où il en a besoin? Ça va être tout l'enjeu, en fait, de la relation parentale.
D'accord. Je pense qu'effectivement, c'est un message qui peut parler à beaucoup de parents, ce temps et cette patience qu'il faut avoir, qui, je pense, doit être extraordinaire à comparer d'une personne qui est seule ou juste en couple. Ça, c'est certain.
C'est évident. Et en même temps, c'est un enjeu très fort et c'est très compliqué parce que moi-même, j'ai fait face à ce défi. J'ai 3 enfants. C'est pas toujours évident d'être à l'écoute de l'enfant 1 quand l'enfant 2 nous sollicite et vice versa. Voilà.
Bien sûr. Merci Anne. Alors il y a aussi une dernière question, c'est quand on a manqué finalement de sécurité affective étant enfant, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors pendant longtemps, on a cru justement, puisque c'est lié, la sécurité affective, elle est liée à la théorie de l'attachement, au trouble de l'attachement. Ouais. Est-ce que j'ai le temps de les récapituler vite fait?
Oui, bien sûr, Anne.
L'attachement sécure, c'est un petit peu notre graal à tous, c'est-à-dire j'ai eu des besoins et mes parents ont répondu de façon stable et grosso modo, je suis une adulte stable qui entre en relation de façon complètement sécure avec mes pères et avec mes futurs amoureux. Et puis au contraire, je suis dans une famille où je n'ai eu que le minimum, c'est-à-dire que pour des raisons qui appartiennent à mes parents, alors là, loin de moi l'idée de faire un procès aux parents, parce que étant maman moi-même, les parents ne font que ce qu'ils peuvent avec les moyens dont ils disposent à un moment T, donc c'est pas du tout le lieu de ça, bien au contraire, mais disons que pour des raisons qui appartiennent aux parents, je ne suis pas en capacité d'écouter mon enfant et donc je vais lui donner que le minimum vital, c'est-à-dire je vais m'occuper qu'il ait un toit sur la tête, de le nourrir, de l'amener à l'école et puis je ne suis pas disponible pour des raisons multiples. Et donc là, mon enfant va développer un attachement, ce qu'on appelle évitant, c'est-à-dire du coup, je vais être un peu distant dans mes relations, voire complètement évitant et je vais tout faire pour qu'elle foire au fur et à mesure, pardonnez le langage un petit peu, voilà. Et puis, au contraire, j'ai eu des parents qui, à des moments, sont très présents et à des moments, sont plus présents. Alors là, typiquement, ça peut être des parents qui ont des addictions ou des parents qui sont avec des pathologies mentales ou des dépressions ou un travail énorme. Donc, à des moments, ils sont présents et à d'autres moments, ils ne le sont pas. Et donc là, moi, je vais avoir un attachement anxieux en tant qu'enfant. Oui. C'est-à-dire que y a des moments où j'ai cet attachement et je me dis, oh, c'est génial, j'ai de l'amour, c'est super. Et d'autres moments où j'en ai pas. Donc là, je vais développer, moi, en grandissant, je veux de l'amour, je veux de l'amour, je veux de l'amour. Donc c'est ce que je vais proposer ensuite comme relation à mes futurs amoureux éventuels. Mmh. Et puis, il y a le mélange des deux. C'est-à-dire à la fois de l'évitant et à la fois de l'anxieux. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'attachement désorganisé. Alors là, c'est vraiment très, très gros. Hein. C'est dit en 2 minutes. Mais voyez comme cette théorie de l'attachement, elle conditionne ce que l'on va proposer dans nos relations futures. Et donc, il y a eu toute une période où on pensait que le bébé qui avait ce style d'attachement, il devenait un adulte avec ce style d'attachement, point barre, et c'était fichu, en gros. Et heureusement, maintenant, donc en particulier, en partie grâce à la théorie polyvagale qui dit que, oui, c'est possible, en rééduquant notre système nerveux, en rééduquant notre nerf vague, en apprenant une autorégulation, je peux arriver à modifier ce système d'attachement, donc je peux arriver à modifier ma sécurité affective. Et ça, c'est quand même une super nouvelle.
Ah, c'est sûr.
C'est parce que ça déculpabilise énormément. Donc, comment faire? Comment faire? Ça va être vraiment lent. Là, vous imaginez bien qu'un système d'attachement que j'ai que j'ai développé pendant 20, 30, 40 années ne va pas se défaire en 3 séances comme ça. Ceux qui vous vendent ça, attention, parce que ça fait un petit peu magie. Et or, il n'y a rien de magique là-dedans. Ça passe par une réadaptation à notre système nerveux, à un apprentissage de comment je fonctionne, donc comment va fonctionner mon mode de survie préféré. Ça va être parce qu'on a tous des modèles de survie dans lesquels on est un peu plus coincé, bloqué. Et donc, ça va passer par vraiment un apprentissage de mon mode de fonctionnement, de mon mode d'attachement. Et puis ensuite, par un petit peu comme quand je me suis cassé la jambe et qu'il faut que je rééduque ma jambe en suivant. Donc, rééduquer mon système nerveux. Donc, une écoute de soi, une écoute des besoins de son corps, une écoute de son corps. Là, vraiment, ça va. Une fois que j'ai compris dans ma tête, il va falloir passer par le corps de façon inévitable. Parce que corps et esprit, ce n'est pas dissocié et ça marche ensemble. Mmh. Et notre système nerveux, il va du corps au cerveau et il redescend du cerveau au corps. Donc là, l'un ne va pas sans l'autre. Je vais comprendre ce qu'il y a en haut de mon fonctionnement en bas, mais je vais passer par le bas pour rééduquer l'histoire aussi que je me suis racontée. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, dans les accompagnements de plus en plus qui se font maintenant, et donc dans les accompagnements que je propose, c'est que la personne qui va se travailler sur sa sécurité affective, elle ne va pas travailler sur elle. Elle ne va pas travailler sur ses types d'attachement. Elle ne va pas travailler sur son insécurité, mais elle va travailler avec elle. Mmh. Elle va travailler avec son insécurité. Elle va travailler avec son mode d'attachement. Et c'est extrêmement déculpabilisant, de voir que l'on peut travailler avec ses modes de fonctionnement plutôt que contre et plutôt que de se faire violence en se disant « bon, ça c'était avant, maintenant ça va être comme ça, je vais me rééduquer par la force et par la violence ». Non, je vais vraiment comprendre et y aller en douceur. Donc voilà.
Merci Anne pour ces conseils. Alors, on va regarder maintenant les questions qui ont été posées tout au long du live. Et je vais commencer à t'en poser une. Alors, on avait une personne qui demandait déjà ce que tu entendais par passer par le corps. Est-ce qu'il s'agit de soins énergétiques ?
Alors, ça peut. C'est-à-dire que se réapproprier son corps, bah ça va être... Il n'y a pas de recette, en fait. Il n'y a pas de recette avec un protocole. Si c'était aussi simple, il n'y aurait qu'à acheter le livre théorique « Comment me remettre en sécurité affective en 10 leçons » et puis ce serait réglé. Donc, ça, c'est pourquoi il n'y a pas de recette ? Parce que ça va passer par vous et uniquement par vous. Donc là, ça va être vraiment une question de responsabilisation de ce qui est, qu'est-ce qui est bon pour vous en fait, quels sont vos propres besoins. Donc si je suis très en adéquation avec les soins énergétiques, pourquoi pas ? Moi, ce n'est pas ce que je propose parce que je connais très peu le monde de l'énergétique, mais pourquoi pas en fait, ça va dépendre de vos propres besoins. Moi, je travaille beaucoup sur la respiration, puisque le nerf vague agit sur les fonctions respiratoires, sur la cohérence cardiaque, puisque ça a aussi un influx, notre nerf vague travaille sur le cœur. Et donc, en ralentissant le cœur, j'envoie un message à mon cerveau que ce n'est plus la peine d'être dans le stress, que mon cortisol peut commencer à baisser. Donc voilà, je vais travailler là-dessus. Je vais travailler aussi un petit peu en amont sur la visualisation interne en voyant qu'est-ce qui a bloqué, à quel moment les traumas se sont installés pour qu'il y ait de l'insécurité. Et puis je vais travailler aussi sur tout ce qui est soit déclencheur de symptômes, soit retentissement d'un événement qui est par exemple récurrent. Et donc tout ça permet d'aller sur la cause de ce qui a été mon insécurité plutôt que sur l'insécurité en elle-même. Voilà.
Merci Anne pour cette réponse très complète. On a Lina qui nous demande si tu peux en dire plus sur l'attachement désorganisé.
Alors l'attachement désorganisé, eh bien c'est un mélange, donc comme je disais, d'attachement évitant et d'attachement anxieux. Et c'est vrai que bon, l'attachement évitant, c'est je ne veux pas m'attacher. Je fais tout pour que, je ne vais pas m'engager dans les relations. Et l'attachement anxieux, c'est au contraire, j'ai connu à des brefs moments, des moments d'engagement, donc je vais m'engager. Mais comme j'ai appris aussi que ça pouvait se désengager, ben là, pour le coup, parce que c'est vraiment, ça me fait souffrir, donc là, c'est moi qui vais me désengager pour ne pas souffrir. Hein, il faut bien entendre que chaque comportement que je mets en place, ça, c'est vraiment pour me protéger. Ça fait partie de mécanismes de défense, de nos mécanismes de survie. Donc, le but, en fait, de chaque action que je mets en place, c'est vraiment ma survie, ma protection. Donc, si je suis désorganisée, eh bien, chouette, j'ai un amoureux, je vais investir cette relation à fond. Et puis, dès que ça commence à fonctionner, je vais avoir peur que ça s'arrête. Et donc, c'est moi qui vais faire en sorte que ça s'arrête. Je vais faire, typiquement, je vais faire foirer la relation pour me désengager. Voilà.
Merci.
Je ne sais pas qui a posé la question, mais est-ce que je suis suffisamment claire n'hésitez pas à le
n'hésite pas, oui, à mettre un commentaire, qu'elle n'hésite pas. Alors, il y avait d'autres questions qui sont passées entre temps. Alors, il y a des personnes qui voulaient savoir combien de temps dure une thérapie à peu près.
Alors, ben là, c'est la grande question. Moi, je ne suis pas comme les coachs qui disent en 10 séances, ça sera terminé, vous verrez, vous serez transformé à jamais. Moi, je fais vraiment du personnel, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, bon alors clairement en une séance, non. En trois séances, c'est extrêmement rare. Je compte un minimum de 5 séances, mais ça peut aller jusqu'à 12, 15 séances. Ça dépend vraiment de la personne, là où elle en est. Ça dépend de ses blessures, parce que parfois les blessures ou les traumas, la personne n'en a pas conscience forcément. Elle les a inscrites dans son système nerveux. Elle vient parce que justement, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle ne sait pas quoi. Et quand elle découvre le trauma, eh ben, parfois, il faut aller un peu plus loin dans le temps pour enlever l'inscription de ce trauma dans son corps. Et donc là, ça passe par quelque chose de plus long. Donc non, une thérapie, je ne peux pas dire à l'avance, oui, en 5 séances, c'est fini, ou en 15 séances, c'est fini. Parfois, voilà, j'ai des personnes en 5 séances qui sont assez surprises que ce soit aussi rapide. Et parfois, bah, il y a des personnes que je vois pendant 2 ans à raison de, au départ, une fois par semaine, ensuite une fois tous les 15 jours et ensuite une fois par mois pendant un an et demi. Ça dépend de l'âge aussi, parce que vous entendez bien qu'un trauma qui a été vécu il y a 5 ou 6 ans quand j'ai 20 ans, c'est plus facile d'aller à sa racine que quand j'ai 60 ans et que j'ai eu un déni pendant toutes ces années, et qu'il faut aller là, à la racine du trauma, il y a 55 ans. Donc, tout est vraiment en fonction de la personne, de l'âge, de la façon dont elle a engrangé son trauma, dont ça s'est imprimé dans son corps. Il n'y a pas de réponse toute faite. Je suis désolée, je ne suis pas ce genre de personne qui donne 10 séances et terminé.
Bien sûr, Anne, vous avez raison. Alors, on va en faire encore une ou deux questions maximum. On a Kylia qui nous dit « Un manque de sécurité affective peut-elle amener à une dépendance affective ?»
Eh bien, complètement. Complètement. Alors, typiquement, là, je prends l'exemple de l'attachement anxieux, où là, j'ai eu accès à un attachement avec mes parents à un moment donné, dans un laps de temps. Et puis, tout d'un coup, ça m'a été enlevé pour une quelconque raison. Hein. Donc, je disais parfois l'addiction d'un de mes parents ou la surcharge de travail ou autre. Du coup, je suis en insécurité permanente. C'est-à-dire, je vais avoir envie de rentrer en relation. Je vais m'impliquer dans cette relation. Et puis, ça, je sens que j'ai peur que ça s'arrête. Donc, je vais... être dans le aime-moi, 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 toujours plus, jusqu'à fatiguer l'autre ou jusqu'à ce que moi je me rende compte que bah, finalement je vais m'y abîmer dans cette relation, donc je vais casser cette relation. Donc là, et là, la dépendance affective est clairement liée à l'insécurité affective.
D'accord. Merci Anne. On va faire une dernière question. J'en vois plusieurs, mais on va choisir la première qui a été postée. C'était Cathy qui nous dit « Bonjour, en général, évitants et anxieux vont ensemble. Est-ce que les évitants, ils aiment ou ils sont juste en couple parce que c'est la norme ?»
Ah ben là encore, il n'y a pas de réponse toute faite. Et là, ça dépend non seulement de l'attachement, mais ça va dépendre aussi des messages qu'il a entendu. Si forcément on est dans une famille où j'ai entendu bah, « j'espère que tu vas te marier et avoir des enfants parce que sinon tu vas être le paria de cette société », forcément je vais me mettre en couple parce que c'est la norme alors que je ne sais pas faire. Mais rien n'est… si c'était aussi simple, hein, nous sommes quand même 7 milliards et demi d'humains, ouais. Il y a 7 milliards et demi de façons de fonctionner, ça serait… voilà. Donc, la réponse, elle peut être oui, mais voilà.
D'accord. Merci, merci beaucoup, Anne, pour ton honnêteté et pour avoir développé à chaque fois tes réponses. C'est super. Merci d'avoir accepté de faire ce live. Il y a une personne qui demandait encore si tu faisais des séances à distance. Tu avais dit que oui. Donc, voilà. Pas de souci si vous voulez faire des séances à distance avec Anne. Anne, je laisse toujours un instant aux personnes à la fin pour parler, soit de leur cabinet ou si tu as à transmettre un message, tout simplement.
Alors, transmettre un message, c'est… moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment justement cette sécurité affective, pouvoir la transmettre à nos enfants. Parce que c'est surtout à l'heure actuelle où on est quand même dans un monde… un peu anxiogène, hein. Ça va être hyper important que nos enfants soient dans une bulle de sécurité le plus tôt possible afin… Ah oui, il y a quelqu'un qui dit on est des 8 milliards. Oups, je n'étais pas actualisée dans mes réponses.
Oui, c'est tombé aujourd'hui l'info, hein, donc tu n'étais pas trop en retard.
Voilà. donc c'est, pour moi, c'est très important, la bulle de sécurité que je vais offrir à mon enfant à l'intérieur de la maison va être très, très importante. Donc là, vraiment, c'est pour moi, ça me tient à cœur parce que les enfants, pour moi, c'est vraiment, c'était mon premier métier à la base. Et donc, c'est pour ça que je suis devenue thérapeute pour adultes aussi, ce qui peut paraître paradoxal. Mais non, parce que j'ai bien remarqué que moi, quand je me suis guérie de l'intérieur, de mon insécurité affective, de ma dépendance affective, de mes troubles de l'attachement, c'est ce qui a fait que mes enfants ont pu grandir en sécurité et c'est ce qui a apaisé les relations dans ma famille et ce qui a apaisé le climat familial. Donc, c'est ce que j'ai voulu aussi transmettre aux autres. Ce que je fais à l'heure actuelle, c'est que j'ai cofondé une association qui s'appelle Communiquer Autrement et je fais des ateliers. Alors là, pour le coup, c'est en présentiel dans le sud-ouest de la France, mais pourquoi pas, on peut se déplacer aussi. Et en ce moment, on est sur la semaine où on fait plusieurs ateliers dans plusieurs collèges sur le harcèlement. Et le harcèlement a un impact immense et incommensurable sur les enjeux de la sécurité affective. Donc oui, ça nous tient à cœur. Ça me tient à cœur ces problèmes de harcèlement. Les problèmes de gestion des écrans aussi. Donc, je fais beaucoup d'ateliers là-dessus parce que là encore, beaucoup de parents, de jeunes parents sont sur leur portable à répondre à leurs enfants et le face-à-face, puisque notre système nerveux commande aussi les muscles de la face, vont être hyper importants pour entrer en co-régulation avec notre enfant. Donc, si je réponds à mon enfant tourné vers le portable et que lui, il est à côté et qu'il ne voit pas mes yeux, qu'il ne voit pas mon non-verbal, ça peut le mettre aussi en insécurité affective. Donc ça me tenait à cœur de dire ça aussi.
C'est vrai.
Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Je me suis perdue.
Donc,
voilà, donc cette association qui me tient à cœur. Et voilà, et incessamment sous peu, je vais proposer des ateliers aussi de groupes en distanciel, parce que je trouve que l'énergie du groupe amène une émulation et qui peut être très, très intéressante et stimulante, en fait, dans le changement.
D'accord. Merci. Merci beaucoup, Anne, d'avoir parlé de ton association et forcément de la sécurité affective des enfants qui te tient très à cœur. Merci d'avoir participé à ce live et d'avoir répondu présente aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée. Merci encore.
Merci à toi, Charlotte, et merci à vous tous pour vos questions.
Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur @psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.